Chapitre 29. « Je ne veux pas qu'elle se promène dans les bois !» déclarait Didier à Bobby avec véhémence 10 minutes plus tard à côté des voitures arrêtées à la queue leu-leu. « Sa mission consistait à nous conduire ici. Maintenant qu'elle est remplie, la nôtre commence. » « L'équipe cynophile a besoin de son aide, » répliqua Bobby. « Il n'y a pas de vent, donc les chiens vont avoir du mal à trouver le cône d'émanation. » Didi le regarda d'un air ahuri. « L'odeur, » lui expliqua-t-il en formant un triangle avec ses mains, « se diffuse depuis la cible en prenant la forme d'un cône. Pour que le chien la détecte, il faut qu'il soit sous le vent, à l'intérieur du cône. Sinon, il peut se trouver à 1 mètre de la cible et la rater quand même. »
« Depuis quand tu t'y connais en chien ?»«
Depuis 30 secondes. J'ai demandé à Nelson et Cassandra de quoi ils avaient besoin. Les conditions les inquiètent un peu, le terrain est plat, ce qui est une bonne chose, je crois, mais il est ouvert, ce qui rend les recherches plus difficiles.
Pourquoi ?»«
Les particules olfactives s'accumulent quand elles rencontrent un obstacle. Donc, s'il s'agissait d'un champ avec des barrières ou des fossés bordés de haies, ils commenceraient par le pourtour. » Mais sans barrière ni haie, juste une grande étendue ouverte, comme ça.
Bobby montrait le paysage qui les entourait. Didi poussa un profond soupir. Tessa Léonie les avait conduits dans une des rares régions du Massachusetts qui restait mi-forestière, mi-agricole et tout à fait perdue au milieu de nulle part. Vu les chutes de neige de dimanche soir, les champs n'offraient au regard qu'une vaste étendue blanche totalement muette, ni empreinte de pas, ni trace de pneus ou d'objets traînés, ponctués ici ou là de taches sombres, arbres squelettiques ou arbustes broussailleux. Ils avaient déjà de la chance d'être arrivés jusque-là, et Didi n'était même pas certaine qu'ils pourraient en repartir. Ils auraient dû prendre des bottes de neige, ou mieux encore, des vacances.
Dans la neige fraîche, les chiens vont se fatiguer plus vite, continuait Bobby. Donc l'équipe veut commencer avec la zone de recherche la plus circonscrite possible. Ce qui suppose que Tessa nous rapproche au maximum de la cible.
« Elle pourrait peut-être nous indiquer la direction, » marmonna Didi.
« Voyons, Tessa est pieds, poings liés, et il va falloir qu'elle crapahute dans 20 centimètres de neige. Ce n'est pas demain la veille qu'elle va s'enfuir.
Elle n'a pas de blouson.
Je suis sûre qu'on pourra nous en prêter un.
Elle nous fait marcher.
Je sais.
Tu as remarqué qu'elle n'a répondu à aucune de nos questions.
J'ai remarqué.
Tout en faisant de son mieux pour nous tirer les vers du nez.
Exact.
Tu as entendu ce qu'elle a fait au détenu qui avait agressé la surveillante? Elle ne s'est pas contentée de le mettre hors d'état de nuire. Elle lui a planté un couteau dans la cuisse et elle a remué 2 fois.
Ça va un peu plus loin que ce qu'on apprend à l'école.
Elle se faisait plaisir.
Elle a l'air sur les nerfs, convint Bobby. Je dirais que sa vie a pris un tour plutôt désagréable ces jours-ci.
Et pourtant, on se retrouve ici à faire ses 4 volontés. Ça ne me plaît pas.
Bobby réfléchit. Tu devrais peut-être rester dans la voiture, par précaution. Didi serra les poings pour se retenir de le frapper. Puis elle soupira et se passa la main sur le front. Elle n'avait pas dormi la nuit dernière, n'avait pas mangé ce matin. De sorte qu'elle était déjà fatiguée et grognon, avant même d'apprendre que Tessa Léonie était prête à les conduire au corps de sa fille.
Didi n'avait pas envie d'être là. Elle n'avait pas envie de crapahuter dans la poudreuse. Elle n'avait pas envie d'arriver à un petit monticule de neige et de creuser pour découvrir le visage congelé d'une fillette de 6 ans. Est-ce que Sophie aurait l'air endormie? Est-ce qu'elle serait enveloppée dans son manteau d'hiver rose, sa poupée préférée dans les bras? Ou bien, est-ce qu'il y aurait des impacts de balles, des gouttelettes rouges qui témoigneraient de derniers instants marqués par la violence? Didi était une professionnelle, mais elle ne se sentait plus professionnelle. Elle avait envie d'aller prendre Tessa Léonie à la gorge sur cette banquette arrière, envie de serrer, de secouer, de hurler. « Comment vous avez pu faire ça à la petite fille qui vous aimait ?» Didi aurait sans doute dû rester en arrière, donc elle ne le ferait pas naturellement.
« L'équipe de recherche demande qu'on l'aide davantage, » rappela Bobby. « Il ne nous reste que 4 heures pour travailler à la lumière du jour. » Et dans des conditions pas franchement idéales. Les capacités physiques des chiens ne sont pas illimitées, celles de leurs conducteurs non plus. Qu'est-ce que tu proposes?
Et merde, murmura Didi.
C'est bien mon avis.
Le moindre coup fourré, et je serai obligé de la tuer,
dit Didi après réflexion. Je ne pense pas qu'il se trouvera trop de gens pour te le reprocher.
répondit Bobby avec philosophie.
Bobby, si on retrouve le corps, si je craque, je te couvrirai.
Elle hocha la tête, voulut le remercier, mais sa gorge était nouée. Elle hocha une nouvelle fois la tête. Il lui posa une main sur l'épaule. Et ils retournèrent vers Tessa Leoni. Tessa était sortie de la Kronvik. Sans manteau, pieds et poings liés, elle avait tout de même trouvé moyen de se rapprocher d'une des voitures de l'équipe cynophile et elle regardait Nelson sortir ses chiens. Les deux premières caisses de transport contenaient des petits chiens qui tournaient sur eux-mêmes avec excitation et aboyaient comme des fous.
« Ce sont des chiens de recherche ?»
demanda Tessa avec scepticisme alors que Bobby et Didi approchaient.
« Que non !»
répondit Nelson en ouvrant une troisième caisse, beaucoup plus grande, qui contenait un berger allemand.
« Eux, c'est la récompense !»«
Pardon ?»
Après avoir libéré le berger allemand, qui se mit à tourner autour de lui en cercle étroit, Nelson se baissa pour ouvrir les deux autres caisses. Les petits chiens hirsutes en sortirent comme des flèches et se mirent à sauter sur le berger allemand, sur Nelson, Tessa, Bobby, Didi et quiconque se trouvait dans un rayon de 5 mètres.
« Je vous présente Kelly et Skyler, » expliqua Nelson. « Des terriers irlandais à poils doux, malins comme des singes, mais un peu nerveux pour les opérations de sauvetage. En revanche, Quizzo trouve que ce sont les meilleurs copains de jeu du monde et je serais bien étonné le jour où il ne les choisira pas comme récompense.
« Mais il ne les mange pas quand même, » demanda Tessa, tache orange sur la neige d'un blanc éclatant, frissonnante dans le froid.
Nelson la regardait avec un grand sourire, manifestement amusé par la question. Si ça le dérangeait de discuter avec une meurtrière présumée, il n'en montrait rien, songea Didi.
« Le plus important, quand on dresse un chien, »
dit-il tout en continuant à décharger du matériel à l'arrière de son pick-up bâché, « c'est de découvrir ce qui le motive.
Il n'y a pas deux chiots pareils. Il y en a qui veulent de la nourriture, d'autres de l'affection. La plupart se focalisent sur un jouet qui devient le jouet. Le maître chien doit savoir décoder ses signes, et quand il comprend enfin ce qui constitue la récompense, la seule chose qui motive vraiment son chien, c'est là que le vrai dressage peut commencer. « Bon, mais mon Quizzo, » continua-t-il en donnant une petite tape sur la tête de l'animal, « il m'a donné du fil à retordre. Le chien le plus intelligent que j'ai jamais vu, mais seulement quand ça lui chantait. Sauf que ça ne peut pas marcher comme ça, il me faut un chien qui cherche sur commande, pas quand il est d'humeur. Et puis un jour, ces deux-là sont pointés, »
dit-il en montrant les terriers qui bondissaient et jappaient toujours.
« Un ami à moi qui ne pouvait pas les garder. J'ai proposé de le dépanner le temps qu'il trouve une meilleure solution. Eh bien, si c'était pas le coup de foudre, je ne sais pas ce que c'était. Mademoiselle Kelly et Monsieur Skyler se sont précipités sur Quizzo comme une paire de gamins et il les a tout de suite pris en chasse. Ça m'a donné des idées. Peut-être que jouer avec ses meilleurs copains pouvait être une récompense. J'ai essayé une paire de fois, et bingo! Faut dire que Quizzo est un peu cabotin. Ça ne le dérange pas de travailler du moment qu'il a son public. C'est pour ça que je les emmène tous les trois en intervention. Je laisse un moment Quizzo pour se frotter à ses copains, qu'ils sachent qu'on est arrivé. Ensuite, il faudra isoler Kelly et Skyler, sinon je peux vous dire qu'ils seraient tout le temps dans nos jambes, et je donnerai à Quizzo l'ordre de travailler. Il s'y mettra tout de suite parce qu'il sait que plus tôt il aura accompli sa mission, plus tôt il pourra retrouver ses amis. »
Nelson leva la tête, regarda Tessa droit dans les yeux et dit posément
« Skyler et Kelly lui remonteront aussi le moral. Même les chiens de recherche n'aiment pas trouver des cadavres. Ça les déprime. C'est pour ça que c'est doublement important que Skyler et Kelly soient ici aujourd'hui. »
Était-ce l'imagination de Didi ou bien Tessa avait-elle enfin tressailli? Peut-être un cœur battait-il encore derrière cette façade? Didi se rapprocha, Bobby à ses côtés. Elle s'adressa d'abord à Nelson.
« Il vous faut encore combien de temps ?»
Il jeta un œil à ses chiens, puis au reste de l'équipe, qui déchargeait les véhicules rangés derrière lui.
« Un quart d'heure. »
« On peut faire autre chose pour vous ?»«
Marquez l'endroit exact avec un X ?»
demanda-t-il avec un fin sourire.
« Comment saurez-vous que les chiens ont trouvé, qu'ils ont une touche ?» demanda Didi avec curiosité. « Quizzo aboiera plus fort ?»
« 3 minutes d'aboiement continu, » expliqua Nelson. « Tous les chiens de recherche sont dressés de manière un peu différente. Il y en a qui s'assoient quand ils ont trouvé quelque chose, d'autres qui ont une façon d'aboyer particulière, Mais comme notre équipe est spécialisée dans les opérations de sauvetage, on a opté pour 3 minutes d'aboiement continu. Partant du principe que nos chiens pourraient être hors de vue, derrière un arbre ou un gros rocher, et qu'on pourrait avoir besoin de 3 minutes pour les rejoindre. Ça marche bien pour nous.
Bon, je ne peux pas vous marquer l'endroit avec un X, mais on devrait pouvoir savoir par où commencer.
Didi se tourna vers Tessa.
Remontons le cours de vos souvenirs. Vous êtes venu jusqu'ici en voiture ?
Le visage de Tessa avait perdu toute expression. Elle hocha la tête.
Vous vous êtes garé ici ?
Je ne sais pas. Le chemin était plus visible, bien tassé. J'ai roulé jusqu'au bout.
Les arbres, les champs, vous reconnaissez quelque chose ? Demanda Didi en montrant les alentours.
Tessa hésita, de nouveau frissonnante.
Peut-être ce bosquet là-bas, dit-elle enfin en montrant vaguement une direction avec ses mains liées.
Pas sûr avec les chutes de neige. C'est comme si quelqu'un avait effacé le tableau. Tout est à la fois pareil et différent.
4 heures, rappela sèchement Didi. Ensuite, quoi qu'il arrive, ce sera retour derrière les barreaux. Alors je vous suggère de bien observer le paysage, parce que si vous voulez vraiment ramener votre fille chez vous, ce sera votre seule chance.
Quelque chose se manifesta enfin sur le visage de Tessa. Un spasme d'émotion difficile à décoder, mais dont le regret n'était peut-être pas absent.
Cela contraria Didi. Elle se détourna, les bras croisés sur le ventre.
« Trouve-lui un manteau, » marmonna-t-elle à Bobby.
Il avait déjà un blouson entre les mains. Il le lui tendit et Didi faillit éclater de rire. C'était une doudoune noire sur laquelle on lisait « Boston PD », sans doute sortie du coffre d'un des agents. Il la posa sur les épaules de Tessa, et comme ses mains menottées l'empêchaient d'enfiler les manches, il remonta la fermeture éclair pour la maintenir en place.
« Qu'est-ce qui est le plus incongru ? » se demanda Didi à voix haute. Un blouson de la police municipale sur le dos d'un agent d'État ou un blouson de la police municipale sur le dos d'une détenue de la maison d'arrêt.
« De toute façon, » conclut-elle d'une voix plus sombre, mauvaise même, « ça ne colle pas. » Didi retourna à sa voiture. Seule, elle rentrait la tête dans les épaules pour lutter contre le froid et le pressentiment d'un malheur imminent. Des nuages gris sombres s'amoncelaient à l'horizon.
« Il va neiger. » se dit-elle, et de nouveau elle souhaita qu'aucun d'eux ne soit là.
Ils se mirent en chemin 12 minutes plus tard, Tessa, pieds et poings liés en tête, Bobby et Didi, à sa droite et à sa gauche, l'équipe cynophile et un assortiment d'agents de police fermant la marche. Les chiens restaient en laisse. On ne leur avait pas encore donné l'ordre de chercher, mais ils tiraient sur leur bride, manifestement impatients. Il n'avait pas fait 10 mètres qu'il leur fallut s'arrêter une première fois. Aussi vindicative que puisse être Didi, Tessa ne pouvait pas marcher dans 20 centimètres de neige fraîche avec les pieds entravés. Ils lui libérèrent les chevilles et commencèrent enfin à avancer. Tessa conduisit le groupe à un premier bosquet d'arbres. Elle en fit le tour, le front plissé, comme si elle se concentrait. Puis elle fit 3 mètres au milieu des arbres dénudés, avant de secouer la tête et de ressortir. Ils examinèrent ainsi 3 boquetots avant que le 4e semble répondre à ses vœux. Tessa y entra et continua d'un pas plus rapide, plus assuré. Elle arriva à un gros rocher gris planté dans le paysage et hocha la tête comme pour elle-même. Ils tournèrent à gauche derrière le rocher et Quizzo gronda tout bas, comme s'il était déjà sur une piste. Personne ne parlait. Juste le crissement sec des pieds dans la neige, le halètement des chiens, le souffle sourd des maîtres chiens et des policiers emmitouflés dans des cache-nez et autres écharpes en laine. Ils ressortirent du bosquet. Didi s'arrêta en se disant que ce devait être une erreur, mais Tessa avançait toujours, traversait un champ de neige, franchissait un filet d'eau à peine visible entre ses rives blanches molletonnées et s'enfonçait finalement dans un bosquet plus dense.
Sacrée trotte avec un cadavre. Marmonna Didi.
Bobby lui lança un regard. Il était du même avis. Mais Tessa ne disait pas un mot. Elle marchait plus vite à présent, résolue. L'expression de son visage était presque sinistre à voir, une inflexible détermination alliée à un désespoir fébrile. Tessa avait-elle même conscience de la présence de l'équipe cynophile et de l'escorte policière? Ou bien était-elle intérieurement revenue à ce samedi après-midi glacial? Les voisins avaient vu la Denali partir vers 4 heures de l'après-midi, donc il ne devait plus faire très jour le temps qu'elle arrive ici. À quoi Tessa avait-elle pensé pendant ces 30 dernières minutes de crépuscule? Peinant sous le poids du corps de sa fille, tandis qu'elle traversait les bois au pas de course, puis une plaine blanchie et s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt dense. Enterrer son enfant. Est-ce que c'était comme léguer son plus précieux trésor au sanctuaire de la nature? Ou comme dissimuler son plus ignoble péché, chercher d'instinct les plus sombres entrailles de la forêt pour dissimuler son crime? Ils arrivèrent à un nouvel amoncellement de rochers moussus qui ressemblait vaguement à un homme. Murs de pierre, vieilles fondations, vestiges de cheminées. Dans un état colonisé depuis aussi longtemps que le Massachusetts, même les bois n'étaient jamais entièrement dépourvus de traces de civilisation. Les arbres s'ouvrirent sur une petite clairière et Tessa s'arrêta. Elle déglutit. Il lui fallut s'y reprendre à plusieurs fois, puis le mot sortit dans un souffle.
« Ici, » dit-elle.
« Où ça ?» demanda Didi.
Il y avait un tronc d'arbre couché.
La neige s'était accumulée devant un tas.
Ça m'a semblé facile à creuser.
Didi ne répondit pas tout de suite. Elle regarda la clairière, ensevelie sous les récents flocons blancs. Sur sa gauche, il y avait un léger renflement qui pouvait avoir été formé par un arbre tombé à terre. Naturellement, il y en avait un autre quelques mètres plus loin et encore un troisième à l'autre bout de la clairière à côté d'arbustes isolés. Néanmoins, elle avait sous les yeux 300 mètres carrés de clairière, plus ou moins. Avec une équipe de 3 chiens de recherche, c'était une superficie tout à fait gérable. Bobby examinait aussi le paysage qu'il scrutait de son regard aiguisé de tireur d'élite. Il regarda Didi, désigna les 2 premiers monticules, puis l'autre plus large encore à l'autre bout de la clairière. Didi approuva. C'était le moment de lâcher les animaux.
« Maintenant, vous retournez à la voiture, » dit Didi sans regarder Tessa. « Mais vous retournez à la voiture !»
Tessa se tut. Didi se tourna vers l'équipe rassemblée. Elle repéra un agent dans les derniers rangs, celui-là même qui tenait le registre de scènes de crime chez les Darby. Elle lui fit signe d'approcher.
« Agent Fisk ?»«
Oui. »
Vous allez raccompagner la détenue à votre voiture et attendre là-bas avec elle.
Le gamin était dépité. D'une opération de recherche active à un babysitting passif.
« Ouais, » dit-il. « C'est une grosse responsabilité d'escorter une prisonnière tout seul. »
Un peu ragaillardi, il se posta à côté de Tessa, une main sur l'étui du pistolet. Tessa ne dit rien, immobile, le visage de nouveau sans expression. « Un visage de flic », se dit d'un seul coup Didi, et étrangement cela la fit frissonner.
« Merci, » dit-elle.
« Pourquoi ?» demanda Tessa.
« Votre fille mérite ça. Les enfants ne devraient pas être perdus dans les bois. Maintenant, nous allons pouvoir la ramener à la maison. »
Le vernis de Tessa se fissura. Ses pupilles s'agrandirent, un puits sans fond, et elle vacilla sur ses pieds. Peut-être même serait-elle tombée si elle n'avait pas bougé pour retrouver l'équilibre.
« J'aime ma fille. »
« Nous la traiterons avec respect, » répondit Didi en montrant l'équipe de recherche qui se mettait en formation de recherche le long de la lisière la plus proche.
« J'aime ma fille, » répéta Tessa plus pressante.
« Vous croyez le comprendre aujourd'hui, mais ce n'est que le début pour vous. » D'ici 9 mois, vous serez étonné de découvrir combien vous avez peu aimé avant. Et pareil un an après, et encore un an après. Alors imaginez 6 ans. 6 longues années d'un tel amour.
Didi la regarda. Ça ne l'a pas sauvée au bout du compte, pas vrai?
Elle tourna ostensiblement le dos à Tessa Léonie et rejoignit les chiens de recherche de cadavres.